Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. En ce début d'automne, ils pointent le bout de leur chapeau au milieu des feuilles mortes. Les champignons sont de retour, une excellente occasion de s'y intéresser. En réalité, le monde des champignons ne se limite pas à ceux que nous voyons apparaître dans les sous-bois. Ils jouent un rôle insoupçonné dans les écosystèmes et l'intérêt qu'ils présentent pour les chercheurs ne se limite pas à leur qualité gustative. Pour explorer le monde fascinant des champignons, je suis en compagnie aujourd'hui de deux spécialistes. Fabienne Malagnac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'Institut de génétique et microbiologie de l'Université Paris-Sud et vous avez publié avec Philippe Sillard « Les champignons redécouverts » aux éditions Belin. Également avec nous, Francis Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste et mycologue, vous dirigez le laboratoire d'excellence Arbre à l'INRA et vous avez publié « Tous les champignons portent-ils un chapeau ?» aux éditions Quae. Vous allez tous les deux partager avec nous votre passion pour les champignons. Nous sommes en direct et les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions en se rendant sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Faut-il se méfier de certains traitements contre l'acné? De nouvelles recommandations viennent d'être formulées à l'attention des dermatologues et c'est à la une de la science aujourd'hui. Bonjour Axel.
Bonjour Daniel. Oui, la Société française de dermatologie et la Haute Autorité de Santé s'associent pour remettre à plat les méthodes de traitement contre l'acné. On en parle dans un instant avec nos invités et vos questions sur Twitter.
Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Stéphanie Texier et préparé par Camille Jusot.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Alors sur Terre, les champignons que l'on trouve dans les sous-bois des forêts représenteraient en biomasse l'équivalent de 1200 milliards d'êtres humains. C'est une information que l'on trouve dans votre livre, Fabienne Malagnac, et c'est cette estimation qui concerne uniquement les forêts et pas les autres biotopes. Hein, on est uniquement en forêt. C'est gigantesque, les champignons des forêts pèsent 160 fois plus lourd que tous les êtres humains réunis à la surface du globe. Ils sont beaucoup plus présents qu'on ne le pense, ces champignons.
Oui, on en a dénombré environ 100 000 espèces. Les estimations imaginent qu'il pourrait y avoir 1 million d'espèces. Les plus optimistes montent jusqu'à 10 millions d'espèces. Donc en fait, on ne connaît probablement qu'une petite partie de leur diversité.
Et ce dont on se rend compte, Fabrice Martin, c'est que pour représenter autant de biomasse, c'est que certainement que ce que l'on voit dans les sous-bois, ce fameux pied avec le chapeau, n'est qu'une partie assez congrue, une portion assez congrue de l'ensemble de ce qu'est le champignon en réalité.
Effectivement, l'essentiel du champignon, en fait, c'est ce réseau mycélien, les filaments microscopiques qui parcourent le sol, qui irriguent le sol et qui connectent les différentes plantes. Et ce qu'on récolte, le champignon, c'est jamais que le fruit de ces réseaux mycéliens. Ouais. C'est la pomme, l'équivalent de la pomme du pommier.
C'est l'organe reproducteur, en fait, que l'on cueille.
C'est l'organe reproducteur. La fructification, le sporophore, il y a différents noms pour décrire cet organe particulier qui porte les spores afin de perpétuer l'espèce.
C'est tout de suite moins bucolique si on dit je pars chercher le sporophore dans les forêts. Je pars au sporophore. Et il joue donc ce rôle prépondérant dans les écosystèmes. Les champignons méritaient bien qu'on leur consacre toute une émission. Vous allez nous dire ce que les scientifiques savent aujourd'hui de ces organismes vivants. Puis on espère bien aussi profiter de vos connaissances pour apprendre à débusquer les bons coins à champignons cette saison. Et les auditeurs commencent déjà à vous adresser leurs questions via la page de l'émission sur franceinter.fr. Les traitements contre l'acné sont à la une de la science aujourd'hui.
Oh, cette tronche que je me tape, on dirait un gazpacho avec des grumeaux.
Mon chéri, as-tu déjà essayé le spoticide?
Le spoticide?
Composé d'OGM, de laine de verre, de pneus, de téflon, d'amiante, d'aluminium et d'enzymes de Fukushima, le spoticide est un produit 100% naturel.
Alors, de vrais traitements de l'acné sévère existent avec des compositions un petit peu moins terrifiantes, mais depuis plusieurs années, ils soulèvent toutefois des inquiétudes en raison de prescriptions abusives ou de certains effets secondaires importants. Certains sont suspectés d'être liés à des risques suicidaires. La Société française de dermatologie, avec l'appui de la Haute Autorité de Santé, a présenté mardi de nouvelles recommandations à destination des professionnels de santé concernant les traitements de l'acné. Pour faire la lumière sur cette remise à plat, nous recevons donc aujourd'hui Laurence Leclerc, dermatologue et chef de projet pour ces nouvelles recommandations, et puis le médecin attitré de la Tête au Carré, Dominique Dupagne. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Daniel.
Laurence, bonjour. Laurence Leclerc, les dernières recommandations en matière de prescription contre l'acné dataient de 2007. Pourquoi mettre à jour ces recommandations maintenant? Qu'est-ce qui a motivé ce rapport?
Alors, toute recommandation doit être régulièrement mise à jour, la science avançant régulièrement. Et donc, depuis 2007, aucune actualisation n'avait été réalisée. D'un point de vue plus conjoncturel, les alertes, effectivement, en rapport avec l'isotrétinoïne et le retrait sur le marché, puis la remise de Diane en circulation, a conduit le ministère à saisir la HAS et la Société française de dermatologie pour actualiser ces recommandations.
Il y avait eu des découvertes récentes où il s'agissait vraiment de faire le point parce que justement il y avait des inquiétudes chez les patients comme chez les dermatologues qui prescrivaient ces médicaments.
Il y a en permanence en médecine de nouvelles données. Hein. Nous avons analysé plus de 130 articles correspondant chacun à des essais nouveaux. Donc il y avait nécessité d'une actualisation.
Dominique Dupagne, si ces recommandations arrivent aujourd'hui, c'est aussi que par le passé des erreurs avaient été commises.
Oui, il y a une double erreur qui est très classique, comme on le voit dans beaucoup d'autres domaines. C'est un coup de volant à gauche, un coup de volant à droite. Pendant un moment, les médecins n'ont pas été très prudents. La pseudo-pilule Diane était donnée au moindre bouton sur la figure aux jeunes filles. On donnait des médicaments sans trop de précautions. Ensuite, il y a eu des alertes sur les pilules de troisième génération qui favorisaient les thromboses et qui n'étaient pas forcément utiles dans l'acné. Il y a eu Diane 35 qui a été interdite. Et donc, le deuxième coup de volant, après, c'est tout interdire, ce qui est tout aussi idiot. Et là, maintenant, il y a le bon sens qui parle, c'est-à-dire que la science fait le point sur la situation, retour au centre, la réalité c'est ça, voici comment maintenant, actuellement en 2015, il convient de traiter l'acné.
Alors Laurence Lecléache, rentrons peut-être dans le détail des nouvelles recommandations. L'isotrétinoïde, j'ai du mal, je ne pense pas l'avoir complètement, c'est l'extracutane, c'est plus simple de le dire comme ça. Hein. L'extracutane, on le connaît aussi dans le grand public sous ce nom-là. Donc depuis plusieurs années, source d'inquiétude pour des cas suspectés de suicide, comment doit-il être utilisé ? Aujourd'hui, ce sont les génériques. Le Roaccutane en lui-même n'existe plus. Ce sont des médicaments génériques qui sont la même molécule.
Oui. L'isotrétinoïne est un médicament extrêmement efficace dans l'acné, pour lequel, effectivement, des cas de dépression ou de suicide exceptionnels ont été suspectés, en sachant que sur un cas unique, il est toujours difficile de relier la prise du médicament avec la survenue d'un effet secondaire. D'autant plus que dans cette situation, on sait, il a été bien démontré, que les jeunes gens qui présentent une acné ont des difficultés d'image de soi, éventuellement des troubles de l'humeur, plus que dans une population de jeunes gens qui n'a pas d'acné.
Donc déjà un terrain, des prédispositions, malheureusement, parfois passées à l'acte.
Voilà, donc toute la question est si on a quelqu'un qui est déprimé parce qu'il a une acné, on a assez envie de faire en sorte qu'il n'ait pas d'acné. D'un autre côté, bien évidemment, on ne souhaite pas prendre de risques avec des prescriptions abusives ou mal encadrées.
Oui, on comprend tout l'embarras hein, des dermatologues qui se retrouvent avec ce choix crucial. Axel Villard.
Autant poser la question à Dominique, comment faire le choix de prescrire ou non l'isotrétinoïne ?
On a vu, c'est un médicament très efficace. C'est le traitement de référence pour les acnés sévères et résistantes. Alors, j'ai déjà dit ici à quel point il n'était pas possible de transformer les corrélations en relations de cause à effet. Oui, il y a eu des suicides avec l'isotrétinoïde, mais en même temps, on sait qu'il y a des enfants, des adolescents qui sont désespérés par l'acné. On n'a aucune preuve de la réalité. Hein. On a une suspicion. Mais le principal problème de l'isotrétinoïde, c'est pas ça. C'est, malgré toutes les précautions qui sont prises, il y a encore des jeunes filles qui tombent enceintes en ayant pris ce produit qui est terriblement tératogène. Donc le problème de ce médicament, c'est vraiment arriver à convaincre les jeunes filles qu'on ne doit jamais prendre ce médicament si on pense qu'on peut tomber enceinte, si on pense qu'on n'a pas bien pris sa pilule, s'il y a le moindre risque de tomber enceinte. Et alors, à ce moment-là, c'est le médicament de référence des acnés sévères.
Tératogène, il faut que vous nous rappelez ce que c'est.
C'est-à-dire provoquer des malformations chez le bébé lorsque le médicament a été pris pendant la grossesse.
C'est un des principaux risques, donc, hein, ce risque surtout, de malformation. Laurence Lecléache, l'autre médicament tout aussi controversé, c'est Diane 35, utilisé aussi comme contraceptif chez les jeunes filles. Là aussi, vous dites à prescrire, mais avec prudence. Alors là, en plus, sur celui-là, il y a eu des atermoiements, des allers-retours, c'est-à-dire qu'il a été interdit en France, puis autorisé à l'échelle de l'Union européenne. Donc finalement, la France se plie à cette injonction de la communauté européenne.
Oui, la communauté européenne a fait une réévaluation du bénéfice-risque sur cette molécule et a considéré que la conclusion était favorable et que donc on pouvait continuer à utiliser cette molécule. Par conséquent, dans des situations spécifiques où elle est nécessaire, il faut pouvoir la prescrire et il faut la prescrire, en sachant que par ailleurs, si on doit être amené à prescrire une contraception orale chez une jeune femme qui a de l'acné, il faut suivre les recommandations qui président pour le reste des situations, à savoir qu'on va commencer par des molécules qui sont à moindre risque de troubles d'embolique et prescrire une deuxième génération en première intention. D'une orgestimate éventuellement, qui est un petit peu à la limite entre les deux, et seulement si malgré un traitement bien conduit d'acné, de l'acné, il persiste des soucis, à ce moment-là, on pourra éventuellement envisager d'autres types de molécules, dont la diane.
Donc c'est aussi le rappel, il existe des traitements plus doux à envisager en première intention, et puis les traitements plus lourds avec certaines contre-indications sont à prendre en deuxième intention. Il y a aussi un point intéressant qui intéressera, je n'en doute pas, les plus jeunes de nos auditeurs, sur les régimes alimentaires, c'est-à-dire est-ce que le chocolat, la charcuterie, on entend beaucoup de choses sur l'acné, il faudrait se priver de beaucoup de choses pour avoir moins de boutons. Qu'est-ce qu'en dit le rapport ?
Alors, l'étude de la littérature ne retrouve pas d'éléments probants dans les différentes études qui ont été analysées permettant de conclure que certains aliments pourraient favoriser l'acné. Par conséquent, on peut continuer à manger du chocolat.
Et ça aide à garder le moral. Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Dupagne ?
Clairement, la littérature dit qu'on n'a pas de preuves qu'un régime marche. Mais on n'a pas non plus de preuves que les régimes ne marchent pas. Ce qu'il faut dire, en tout cas, c'est que c'est pas un problème alimentaire. On n'a pas de l'acné parce qu'on mange mal. Mais il est vrai que individuellement, certaines personnes peuvent se trouver mieux de manger moins de certains aliments sans qu'on puisse scientifiquement prouver que c'est vrai pour tout le monde. C'est très personnalisé.
Bon, merci à tous les deux, Laurence Lecléache et Dominique Dupagne. J'en profite, Dominique Dupagne, puisque je vous ai sous la main, docteur. Je suis curieux d'avoir votre avis. Selon les experts de 60 millions de consommateurs, les sirops pour la toux vendus sans ordonnance seraient sans intérêt. Le magazine a passé en revue 37 sirops en vente libre dans nos pharmacies et sur le haut, 23 seraient tout simplement sans intérêt thérapeutique et 3 devraient être retirés du marché en raison de leur composition. Votre réaction ?
Moi, le seul sirop que je prescris, c'est une tasse d'eau bouillante, du sucre ou du miel, et le quart d'un citron pressé. Il faut prendre ça dans ses mains et boire ça très bruyamment comme ceci.
Quelle démonstration, merci.
Voilà. Pas passé.
Il s'en étrangle le bougre. Merci à tous les deux. Axel, à demain. On va évacuer Dominique.
On fait sortir tout le monde.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les tests ADN en vente libre sont de retour aux États-Unis. 2 ans après leur retrait forcé par l'agence américaine des médicaments, la commercialisation des kits 23andMe est à nouveau autorisée. Ces nouveaux kits permettront aux clients de savoir, à partir d'un échantillon de salive, s'ils sont porteurs de certaines mutations génétiques transmissibles. En revanche, les kits ne permettent plus d'évaluer les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète ou d'Alzheimer, option qui posait des problèmes éthiques à l'Agence américaine du médicament. Voir dans l'infrarouge grâce à des implants cérébraux, c'est désormais possible chez le rat. Contrairement à certains serpents ou chauves-souris, les rats ne perçoivent normalement que la lumière visible, tout comme nous. Mais les chercheurs de Chicago ont réussi à augmenter le spectre de lumière que les rongeurs peuvent analyser en implantant des petits capteurs infrarouges dans le cortex visuel. Après une période d'adaptation au dispositif, les rats sont capables d'utiliser leur nouveau pouvoir pour explorer le monde qui les entoure. Et pour finir, la plus grande image jamais publiée de la Voie lactée, elle rassemble 46 milliards de pixels et correspond à 5 ans de collecte d'images par les astronomes de l'université de la Ruhr en Allemagne, mise en ligne sous la forme d'une magnifique carte interactive du cosmos. Elle est à retrouver en lien sur la page Facebook de La Tête au Carré, de quoi plonger littéralement la tête dans les étoiles. Dans un instant, on part explorer le monde méconnu des champignons avec nos deux invités, à qui vous pouvez adresser vos questions via la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr.
Non, je ne suis pas Maria Iudina. Je n'ai pas de revolver au fond de mon sac, pas de clé de phare. Et pourtant pas de symphonie. pas, non, je ne suis pas Maria Yudina. Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas Maria Yudina. Première à garder la foi, j'entends taper marteau aux accents résistants grâce à son piano, mais j'entends
C'était la grande Sophie Maria Yudina dans La Tête au Carré sur France Inter.
La Tête au Carré, Daniel Fievé.
Et on part aux champignons cet après-midi en compagnie de deux spécialistes, Fabienne Malagnac, auteur du livre intitulé « Les champignons redécouverts » aux éditions Belin, et Francis Martin qui a publié « Tous les champignons portent-ils un chapeau » aux éditions Quae. Francis Martin, c'est une bonne année pour les champignons ?
Malheureusement, non.
Pour quelle raison ?
Le printemps était très sec. On a eu des températures excessivement élevées. L'hiver dernier, il y avait eu de la pluie en quantité suffisante, mais un printemps sec, un été extrêmement sec, l'automne est également sec, pas d'eau, pas de champignons.
Pas d'eau, pas de champignons.
Le réseau mycélien du sol est fragile, il a besoin d'eau pour se développer.
Les champignons arrivent vraiment, enfin ce qu'on appelle les champignons, c'est-à-dire ce pied et les chapeaux, mais on va voir, comme vous parlez du réseau mycélien, il y a d'autres parties du champignon qu'on connaît moins, mais ces organes reproducteurs que sont les pieds et les chapeaux, ils arrivent tous à l'automne ou on peut en trouver?
Non. Les ramasseurs de Maury savent bien qu'elle est printanière, le tricholome de la Saint-Georges également dans les prairies au printemps, mais la grande majorité des champignons qu'on récolte, qu'on ramasse en dans le nord de la France, poussent, surgissent du sol à l'automne, entre la mi-août et la mi-novembre.
Alors, on le disait, ce que l'on ramasse, ce sont les organes reproducteurs. La partie la plus importante des champignons, ce sont ces filaments qui, eux, sont dans le sol. Et alors là, ça peut prendre des surfaces considérables. D'ailleurs, vous donnez tous les deux ce record qu'on trouve aux États-Unis dans vos livres respectifs. Est-ce que vous voulez nous dire ce réseau mycélien qui appartient au même individu, au même champignon?
Oui, c'est un armillaire, donc un individu qui s'étend sur quelque chose comme 950 hectares pour environ 600 tonnes estimées, vieux de plusieurs milliers d'années.
Ouais, 2400 ans, vous dites, alors je ne sais pas comment on estime
oui,
ça.
Oui, alors c'est très compliqué à estimer. C'est sûr que c'est très ancien et c'est assez étonnant parce que ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il s'est développé sans rencontrer d'événements fatals pour lui, ce qui est assez extraordinaire.
Ouais. Mais donc, on parle bien du même champignon. C'est une seule spore qui a donné tout ce réseau mycélien.
Donc c'est un réseau mycélien à croissance radiale. Chaque année, le mycélium croît par son extrémité qu'on appelle apex, en l'occurrence là, de quelques dizaines de centimètres, et finit par couvrir le terrain. C'est une stratégie nutritionnelle où le champignon colonise un peu plus de terrain chaque année pour s'octroyer de nouvelles ressources alimentaires.
Mmh. Non, c'est pas le cas de tous les champignons quand même. Il y en a qui font des toutes petites colonies de quelques millimètres.
Oui, là on est vraiment sur le recordman en la matière. Alors on a du mal à imaginer qu'il puisse être un animal, le champignon, mais est-ce que c'est une plante pour autant? On a du mal à le classer. Hein. Qu'est-ce que c'est?
Alors oui, alors pendant très 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 longtemps, les champignons ont été rangés dans la même boîte de classification que les plantes. Et il y avait des raisons à cela. D'abord, c'était des êtres qui ne se déplaçaient pas, contrairement aux animaux, qui étaient donc animés. C'était aussi des individus qui rentraient dans la catégorie cryptogame. Donc je crois, Linné dit joliment que ce sont des organismes dont les noces sont secrètes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, enfin ils ne voyaient pas à l'époque les moyens de reproduction. Et il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour qu'il y ait les premiers doutes, notamment parce que les champignons avaient des habitudes nutritionnelles et des caractéristiques physiologiques qui commençaient à les démarquer des plantes. Et au milieu du 20e siècle, il a été clairement établi que les champignons ne sont pas des plantes. En fait, ils sont l'histoire évolutive les place ils sont plus proches des animaux que des plantes au cours de l'histoire évolutive. Et en fait, ils ont maintenant un règne apparent. Entière, donc le règne des fongi.
Ouais, ouais. Alors, Christophe vous demande sur Internet, les champignons sont proches des animaux, des plantes ou des fruits? Vous répondez à la question en disant des animaux, mais qu'est-ce qui les rapproche à ce point des animaux? Parce que c'est vrai que quand on les voit, bon d'accord, ils ne sont pas verts, mais ils font plus penser à une plante qu'à un animal.
Alors, oui, c'était d'ailleurs une première idée de la classification, c'est de rapprocher ceux qui se ressemblent. Mais maintenant, d'abord, on a des informations d'ordre génétique, on est capable de décrypter les patrimoines génétiques et donc de reconstruire leur histoire évolutive. Et nous savons maintenant que ce qui fait la différence entre les champignons et les animaux d'une part et les plantes d'autre part, c'est la cellule eucaryote, c'est-à-dire la cellule qui a compartimenté le patrimoine génétique dans un noyau. Et donc cette cellule eucaryote est arrivée sous deux formes, celle qui avait un flagelle postérieur, un petit peu comme un spermatozoïde qui bat, et de cet ancêtre-là sont nés les animaux et les champignons, et à l'opposé il y avait un autre ancêtre, donc là c'est il y a environ un milliard d'années, celui des plantes, où la cellule unique possédait cette fois-ci deux flagelles et était tractée.
Mmh. Ils sont apparus à quel moment sur Terre ces champignons ?
Alors, les champignons, la question de l'apparition des champignons, ça n'est pas très simple, parce que on a peu ou pas de fossiles. Je pense que Francis en dira un mot, parce que la structure des champignons fait que ils ont une paroi, mais pas de squelette. Et puis, ce sont souvent des très petits objets. Donc, il est difficile de dater l'arrivée des champignons, si ce n'est par des méthodes de génétique moléculaire.
Et là, on pense qu'ils ont un milliard d'années. Ils sont apparus, ils sont séparés des animaux il y a à peu près un milliard d'années.
Ouais. Et vous n'avez pas peur de dire dans votre livre, Fabienne Malagnac, qu'ils ont changé la face du monde, que sans eux, la planète ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Francis Martin, vous qui travaillez un peu sur ces écosystèmes et sur le rôle de ces champignons, notamment dans les forêts, en quoi sont-ils si importants?
Dans la mesure où les champignons ont aidé les plantes à coloniser les continents, il y a à peu près 430-450 millions d'années, les végétaux primitifs qui avaient quelques millimètres, quelques centimètres de hauteur, n'avaient pas de racines. Et pour coloniser les continents, les sols, il a fallu s'associer, créer une alliance avec les champignons de l'époque, ancestraux. Et c'est cette interaction, cette alliance entre plantes primitives et champignons primitifs qui a formé la symbiose dite mycorhizienne et qui aurait permis aux plantes de coloniser ces continents extrêmement arides, dépourvus de sol, exposés à des teneurs en UV excessives.
Et encore aujourd'hui, il y a en permanence, sans qu'on s'en rende compte, mais dans les forêts, les champignons sont présents et à à la fois se servent des végétaux et en même temps, c'est dans les deux sens.
On pourrait classer en forêt, on va rencontrer majoritairement trois types de champignons. Les champignons qui sont dits saprotrophes, qui mangent la matière morte, c'est eux qui décomposent et qui mangent le bois, qui éliminent les déchets dans la forêt, qui vont, dès que l'arbre est abattu, le réduire en poussière, en consommer les éléments essentiels pour aller récupérer l'énergie que constitue le carbone.
Donc un rôle de décomposeur.
Décomposeur, on pourrait les appeler les fossoyeurs de la forêt. Ouais. Et puis, il y a les champignons qui sont associés aux plantes, eux, c'est des prospecteurs, c'est des colonisateurs, ils explorent le sol et ils commercent avec la plante. Ils exportent vers la plante un certain nombre d'éléments nutritifs et ils établissent un commerce équitable avec la plante. La plante leur donne des sucres. Donc eux, ces champignons, dits symbiotiques, vont bénéficier du sucre de la plante. Et en contrepartie de cet apport de carbone, vont leur apporter des éléments nutritifs. Et puis il y a ceux qu'on n'aime pas beaucoup, nous autres forestiers, eh bien c'est les champignons pathogènes qui, eux, consomment l'être vivant qui est la plante ou l'arbre pour consommer ces sucres. Ouais. Mais à chaque fois, ces trois catégories de champignons, leur objectif essentiel dans la vie, c'est de consommer des sucres, de décomposer les sucres ou de consommer des sucres.
Ouais. Fabienne Malagnac, on trouve aussi une image assez jolie dans votre livre où vous dites la nature branchée en réseau, comme on peut le voir dans le film Avatar, avec toute la nature communique, eh bien en fait, ça existe aussi sur Terre grâce aux champignons, comme s'ils connectaient les différents végétaux et faisaient une sorte de réseau souterrain. C'est un peu la bourse d'échange grâce aux champignons sous terre.
Alors oui, donc Francis disait que le succès évolutif des forêts sur Terre, c'est probablement cette symbiose, donc cette association à bénéfice mutuel entre des plantes et des champignons, parce qu'effectivement les ressources sont amenées à l'un et à l'autre. Et les champignons, donc par association avec les racines des arbres, sont capables de connecter différents individus dans la forêt, peuvent éventuellement servir de pipeline, en fait, ou de paille.
Il existe... Mais c'est-à-dire qu'on s'échange des nutriments, on s'échange des informations. Qu'est-ce qu'on s'échange via le réseau des champignons?
Alors,
quand on est un arbre,
les nutriments, on en est sûr. Alors, je crois, Francis, si je dis une bêtise, il faut que tu me le dises, mais je crois que en fait, il y a un système de clapet, c'est-à-dire que quand la plante donne du sucre aux champignons, il n'y a plus d'accessibilité dans l'autre sens. Simplement, on s'aperçoit que peut-être, finalement, on peut avoir un échange de ce sucre vers d'autres arbres de la forêt, et que peut-être que des arbres plus développés aident les plus jeunes, ou des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles communiquent à d'autres, et que ça pourrait créer comme ça une dynamique de ressources à l'intérieur de la forêt.
Il faut dire que c'est un sujet qui est polémique. C'est-à-dire que l'existence de ces réseaux, elle est certaine. C'est vrai que toutes les plantes sont les plantes d'un écosystème, que ce soit une prairie, que ce soit une forêt, sont connectées par ce réseau mycélien de plusieurs kilomètres qui va établir des connexions entre les différentes plantes, entre les différents arbres.
Mais c'est incroyable de se dire
déjà
ça.
Déjà ça, c'est quand même incroyable, effectivement. Et ça, c'est mais là, on est quasiment certain de ça. Maintenant, quelle est l'importance pour la nutrition des forêts de ce réseau? Quel est le pourcentage de nutriments et de carbone, de sucre qui passe par ce réseau? Certains disent 1%. Donc dans ce cas-là, c'est négligeable. D'autres disent 10 à 20%, auquel cas, là, ça a un vrai impact écologique. Ouais. Et récemment, certains ont supposé qu'il y avait des échanges de signaux, des signaux d'alerte quand une plante est attaquée. Éventuellement, certaines molécules signalent pourraient prévenir les voisines, les plantes voisines, par le biais de ce réseau mycélien. Donc là, c'est effectivement très séduisant. Ouais. On se rapproche de Gaïa, la planète est interconnectée, c'est Avatar. Là, j'avoue que moi, je suis encore, en tant que scientifique, j'observe, on collecte les informations. C'est des expérimentations extrêmement difficiles à réaliser. Il faut bien voir que démontrer des échanges de carbone dans une forêt adulte avec des arbres centenaires de plusieurs centaines de mètres de haut, on peut difficilement les marquer par un isotope et suivre cet isotope à travers la forêt. Ça reste quand même très compliqué. On a quelques exemples, mais... pas beaucoup.
On s'intéresse aux champignons dans La Tête au Carré cet après-midi et on va voir dans un instant si toutes ces connaissances scientifiques sont utiles pour dénicher de bons coins à champignons. Et puis on s'intéressera aussi aux truffes. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
I'm stars replace the sun, and there's a woman's face in each and every one, and it's all so blinding. Little girl's a long way, a lot of it a long way further. Little girl's a long way, a lot of it a long way further. And at first it just affects your skin, but then it takes you over from within. Oh, it shines out through your eyes. It starts to shine out past the drought inside of your mouth. And it's all so blinding. Little girl's a long way, a lot of it a long way further. Little girl's a long way, a lot of it a long way further. So I'm not going home. Should I? Little girl's a long way, a lot of it a long way further. Little girl's a long way, a lot of it a long way further.
C'était Night Club Balthazar dans la tête au carré sur France Inter.
À Varins, dans le Maine-et-Loire, si on passe beaucoup de temps dans les caves, ce n'est pas forcément pour y boire du vin blanc, mais pour y cultiver le champignon de couche. Ou encore petit rose, s'il pousse dans les champs, ou même Agaricus campestris. Il n'y a pas que les caves sombres et profondes, mais aussi d'impeccables laboratoires pour que Sa Majesté Champignon soit traitée le mieux du monde. On dit souvent que ce qui fait la saveur d'un mets, ce sont les sauces et les garnitures. Voilà un accompagnement tout trouvé.
Un extrait de Panorama, une émission diffusée sur Télé-Ouest en mars 1964. Nous parlons des champignons dans la tête au carré avec Fabienne Malagnac, auteur du livre Les champignons redécouverts aux éditions Belin, et Francis Martin qui a publié Tous les champignons portent-ils un chapeau pour l'interrogation aux éditions Quae. Quand on évoque les champignons, on pense à la cuisine, hein, comme l'extrait vient de le laisser entendre, à la gastronomie. Mais Francis Martin, sur toutes les espèces de champignons qui existent à la surface du globe, combien vraiment présente un intérêt gustatif?
Une soixantaine, à travers le monde, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup de champignons, la plupart des champignons seraient comestibles, mais présentent, il y a très peu de champignons toxiques. Hein. Il y a des champignons mortels, il y en a une demi-douzaine, allez, une douzaine, pas plus, à ma connaissance, en France. Après, des champignons qui ont un intérêt gastronomique et gustatif, et voilà, on les connaît, c'est une demi-douzaine de champignons qui sont les cèpes, qui sont les morilles, les girolles, les truffes, on pourra en rajouter quelques autres. Mais la grande majorité des Français qui vont aux champignons, ils recherchent les trompettes de la mort, les girolles et les cèpes.
Alors, et puis vous évoquiez les truffes, mais alors les truffes c'est tout un art. Hein. Comment? Alors d'ailleurs, Larry qui nous écoute demande où en est la recherche à l'INRA sur les plants truffiers. Comment on les obtient et où on les trouve, ces truffes?
Alors, la recherche sur les plants truffiers, je dirais qu'elle est terminée. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, nos collègues de l'INRA de Clermont-Ferrand ont mis en place un protocole, une procédure pour inoculer les plants de chêne et de noisetier avec de la truffe noire du Périgord, en collaboration avec des collègues italiens. Ça a été mis en place il y a une trentaine d'années, c'est optimisé. Maintenant, il y a 2-3 entreprises en France qui vendent des plants truffiers. Nous, on considère en tant que scientifiques que le protocole est optimisé. On peut mettre sur le marché ou acheter des plants de chêne qui sont mycorhizés, donc qui ont cette symbiose avec la truffe.
Donc là, il s'agit d'acheter un arbre qui a été ensemencé en quelque sorte par des spores de...
Des personnes qui font ça, les expérimentateurs, ils font une purée de truffes, ils achètent des truffes, ou les truffes, ils vont les chercher, ils font une purée avec, et ils trempent les jeunes plantules, le système racinaire des jeunes plantules, dans cette purée de truffes. À ce moment-là, les ifs, le mycélium de la truffe va reconnaître la racine de la plante, s'y installer, former la symbiose entre les deux partenaires. Mmh. Et quand on achète un plant truffier et qu'il a été bien mycorhizé par des gens de qualité, des professionnels de qualité, 99% des radicelles sont mycorhizées par la truffe. Et c'est ça qu'on va planter.
Mmh. Donc les radicelles, ce sont les petites racines de l'arbre qui ont cette présence de champignons.
Et la symbiose s'établit entre les deux partenaires et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, une fois que les plants sont installés et plantés, c'est la nature qui reprend ses droits.
C'est-à-dire que ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la truffière, la moitié du temps, on ne trouve pas de truffe.
Absolument. Ouais. Et c'est sur ça qu'on travaille. C'est essayer d'optimiser, mieux connaître l'écologie de la truffière, comment la truffe se développe sur le système racinaire, passe de plante en plante, est capable de lutter contre ses compétiteurs de manière à, au bout de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans, produire des fructifications qu'on appelle des truffes.
Ouais. Quels sont les arbres alors qui marchent bien pour s'associer?
Essentiellement chêne vert et autres, et le noisetier.
Le noisetier également. L'odeur très forte de la truffe, évidemment, c'est ce qui plaît dans la gastronomie, hein, ce parfum très prononcé de la truffe. Est-ce que, du point de vue de l'évolution, ça présente un avantage pour ce champignon de sentir aussi fort, Fabienne Malagnac?
Ah ben oui, parce que l'évolution chez les truffes a été en fait d'enterrer la fructification. Elle est maintenant sous le sol, ce qui présente des avantages pour résister à la dessiccation notamment.
Donc à la déshydratation.
À la déshydratation, voilà. Du coup, il faut ensuite que les spores qui sont fabriqués par cette fructification puissent être disséminés. Et traditionnellement, quand on a un carpophore, donc un chapeau à champignons aérien, eh bien le vent, la pluie, les insectes font le travail. Là, évidemment, ça ne peut pas être le cas. Et donc, cette odeur attire des animaux fouisseurs. Alors, il y a évidemment les sangliers.
Les sangliers qui aiment bien déterrer les truffes.
Exactement. Et donc, eux se chargent de la dispersion, éventuellement en mangeant la truffe et en la dispersant dans les fesses après.
Alors, on a d'autres façons d'attirer. Parce que comme ce sont des organismes fixes qui ne bougent pas, eh bien, ils essayent de manipuler les animaux autour d'eux pour justement qu'ils se chargent de disséminer leur spore. Et vous racontez dans votre livre très bien, Francis Martin, les stratégies mises en place. Alors il y a l'odeur, on parlait de la truffe, mais il y en a d'autres. Hein. Une odeur de viande pourrie. Certains champignons sentent la viande pourrie pour attirer quoi?
Je suis certain que si vous allez en forêt parfois.
Ah ben, ça m'arrive, oui, évidemment. Donc
il y a parfois, on rentre dans un bois, un sous-bois, et on a une odeur terrible de charogne. Et on s'aperçoit que c'est le satyr puon. C'est un champignon dont la forme rappelle le sexe masculin. Et ce champignon-là est à l'extrémité de ce sexe qui sort de la forêt. Il y a une matière noirâtre, une glu noirâtre. C'est toutes les spores qui sont accumulées. Et c'est cette partie qui émet une odeur de charogne. Les mouches raffolent de cette odeur-là, de cette matière, s'y déposent, arrachent la matrice noire qui couvre le satyre puant et emmènent les spores à quelques kilomètres.
Toujours pour attirer des insectes, mais la nuit, cette fois, vous parlez de champignons luminescents.
Alors là, on est moins sûr.
Ça doit être beau, ça.
On s'interroge sur le rôle de la phosphorescence nocturne d'un certain nombre de champignons, comme le clitocybe de l'olivier, par exemple. C'est magnifique, la nuit, hein, c'est mystérieux. Ce qui est d'ailleurs...
Ça ressemble à quoi, ce champignon, la nuit?
Une phosphorescence verdâtre sur les souches.
Ouais.
Alors, c'est ce qui fait que pendant longtemps, au Moyen-Âge en particulier, les champignons étaient vus comme des êtres maléfiques.
Et oui, évidemment, ça peut faire naître beaucoup
de... Ça rappelle des sorciers et des sorcières.
Beaucoup de légendes.
Alors, est-ce que ça attire certains animaux nocturnes, certains papillons nocturnes? Là aussi, on manque de preuves expérimentales. On fait des corrélations, mais on n'a pas de certitude. Comme la couleur de la manie de Tumouche, on n'est pas certain que cette couleur rouge avec ses petites taches blanches a un rôle dans l'attraction de certains insectes.
Ouais, on parlera dans la dernière partie de l'émission des champignons hallucinogènes, toxiques, vénéneux, dont celle-ci fait partie un peu emblématique, mais on va le voir que c'est pas forcément la plus dangereuse de tous les spécimens. Connaître le cycle de vie des champignons, est-ce que ça aide pour trouver des bons coins à champignons? l'un et l'autre, vous aimez, au-delà de votre recherche, vous aimez les champignons, vous aimez aller aux champignons, bien sûr. Fabienne Malagnac.
C'est la connaissance des biotopes, je crois, dans leur complexité, c'est-à-dire notamment l'interaction entre les champignons et les arbres, en l'occurrence, qui donne une idée des bons coins. Donc, évidemment, il y a sous certaines essences, on va retrouver un certain type de champignons parce que l'association se fait entre, en général, un arbre et plusieurs espèces de champignons dites mycorhiziennes. Et donc, il y a certains champignons qui seraient complètement inutiles de chercher dans certaines parcelles parce qu'il n'y a pas d'association. Il y a évidemment l'humidité du terrain, la manière dont c'est drainé. On trouve les truffes dans des sols, par exemple, extrêmement calcaires et bien drainé, c'est clairement pas l'endroit où on peut trouver les trompettes des morts, par exemple. Donc, c'est cette connaissance de l'environnement qui donne les bons coins et puis les conseils de ses grands-parents, évidemment.
Alors, Luc dit sur la page de l'émission, sur franceinter.fr, l'année n'est pas si mauvaise dans la Nièvre, il n'y a pas eu de girolles, mais beaucoup de cèpes, trompettes de la mort et coulmelles. Évidemment, je ne vous dirai pas où, rajoute-t-il. Donc là, il y a toujours ce côté, quand on connaît un coin à champignons, on ne le partage pas. Est-ce qu'au moins vous pouvez partager avec nous les bons trucs pour les trouver, sans nous donner les vôtres de coins à champignons, mais dites-nous où est-ce qu'on a plus de chances de trouver quelle espèce, dans quel coin, dans quelles conditions?
Si je vais chercher des cèpes, alors encore une fois, il va falloir de la pluie. S'il se met à pleuvoir, j'attends 5, 6, 7, 8 jours. Je sais que les cèpes vont commencer à sortir, à pousser. Je vais aller vers des sols acides. En tant que Lorrain, je vais aller plutôt dans les Vosges, sur des sols acides. Je vais chercher une pessière, un bois d'épicéa, pas trop jaune. S'il faut qu'il ait à peu près 25 à 30 ans. Et à ce moment-là, je suis quasiment certain de trouver des cèpes. C'est-à-dire que c'est vraiment cette interaction qui lie l'arbre et le champignon symbiotique, le cèpe est un champignon symbiotique, et qui va déterminer finalement ma quête de ces champignons. Les truffes, effectivement, je n'irai pas les chercher sur les sols acides des Vosges. Je vais aller sur un plateau calcaire lorrain, la truffe est un champignon qu'on retrouve uniquement sur terrain calcaire. Les trompettes des morts, c'est plutôt des taillis de hêtres assez ouverts. Pas trop âgé. S'il y a eu des éclaircies l'année précédente, j'augmente mes chances de trouver des trompettes. Donc, comme les bons vieux ramasseurs, ils ont ce savoir traditionnel qui leur a fait repérer au cours des week-ends à passer dans la forêt, à trouver ces liens de causalité entre l'apparition du champignon, l'arbre et puis le biotope.
Pierre vous dit, à tous les mycologues de France et de Navarre, si vous voyez toutes les sortes de champignons qui poussent dans les forêts guyanaises au début de la saison des pluies, vers Noël, vous ne sauriez plus où donner de la tête, d'autant que ces champignons n'ont pas encore vraiment été répertoriés. C'est vrai.
C'est absolument vrai. Les premiers safaris de mycologues commencent à se tenir en forêt guyanaise. L'INRA en particulier a une opération de grande ampleur pour inventorier les champignons supérieurs de la forêt guyanaise. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que l'on imaginait. Et quasiment chaque mycologue qui va en Guyane, il va trouver une espèce nouvelle.
Ouais, Fabienne Malagnac, on découvre encore chaque année des centaines d'espèces de champignons. Et vous le dites dans votre livre, un peu presque à la manière d'un coup de gueule, en disant on sous-exploite complètement cette ressource et on n'étudie pas assez ce monde des champignons.
Oui, et à mon sens, on l'étudie pas assez à deux titres. D'abord, en tant qu'organisme modèle pour permettre des démarches scientifiques pertinentes. Et d'autre part, pour l'aspect biodiversité. Et il est à noter qu'effectivement, cette zone entre les tropiques est une zone extrêmement riche. Et non seulement toute la litière, le sol est à explorer. Il y a vraiment un inventaire complet à faire. Et c'est compliqué parce que probablement que les biotopes changent localement aussi et donc il faudrait passer beaucoup de temps. Mais il y a aussi une autre catégorie de champignons dont on n'a pas parlé, ce sont des champignons endophytes qui vivent carrément à l'intérieur des plantes et dont en général on ne voit pas la fructification ni ce qu'on appelle par association, encore une fois avec les termes botaniques, l'appareil végétatif, c'est-à-dire ces réseaux de filaments. Ceux-ci se développent à l'intérieur de la plante et c'est très compliqué à détecter. Et donc des méthodes moléculaires maintenant disent qu'il y en a une petite dizaine au moins par plante les endroits où ça a été regardé, notamment dans les zones tropicales. Donc, vous imaginez la diversité.
Oui, le champ d'investigation est encore vaste. Dans un instant, nous allons nous intéresser aux champignons vénéneux et hallucinogènes, et puis aux molécules aux propriétés très singulières que les champignons sont capables de produire.
Tu t'installes, nous nous faisons le bas, nous nous baradons. Soyons les plus, soyons les plus beaux, soyons les plus, soyons les plus beaux. C'est la grève des journées normales, aujourd'hui moins banal. Demain, qu'en dira-t-on ? Soyons les plus, soyons les plus beaux, soyons les plus, soyons les plus beaux. Nous marchons tout au bord de l'eau, la mer a bon dos, elle maintient nos regards, elle nous envoie des mots. Elle nous renvoie de l'un vers l'autre. Soyons les plus, soyons les plus beaux, soyons les plus, soyons les plus beaux. Je le sais, chacun de tes gestes abrite un rancœur. Prête-moi ton char, je n'y prenne pas mal, et dénuder ton cou, c'était un stratagème pour l'ouvrir au lard.
François and the Atlas Mountain dans la tête au carré sur France Inter. La programmation musicale est signée Thierry Dupin.
Putain, c'est vrai que c'est la saison.
Ils sont dangereux.
Des vraies bombes atomiques. Regardez bien ces petits salopards avec les tétons noirs. On les appelle les têtes de mort. Et ils poussent pas tous les ans.
Mais ils ressemblent aux autres.
Ouais, alors attention.
Et alors, si on les mange ?
Bah en gros, ton cœur explose avec tes poumons et tes reins.
Ah !
Mais c'est quoi les propriétés ?
Si tu survis.
Oui, si tu survis.
Bah, si on en croit les anciens druides irlandais, ce serait le passage vers une autre dimension. Il te permettrait de communier avec les morts. Tu serais incontrôlable, violent. T'aurais l'impression de changer d'apparence. Et enfin, t'aurais des visions, des espèces de prémonitions. Allez, venez, il faut qu'on prévienne les autres.
Un extrait du film Shrooms, réalisé par Paddy Bretnar, qui a eu l'air d'amuser nos deux invités spécialistes de champignons, Fabienne Malagnac, auteure du livre Les champignons redécouverts aux éditions Belin, et Francis Martin, qui a publié de son côté Tous les champignons portent-ils un chapeau aux éditions Quae. On arrive effectivement dans ce monde un peu sulfureux, on pourrait dire, des champignons, avec déjà les champignons hallucinogènes. Alors, d'ailleurs, dans ces champignons hallucinogènes, il y a, on l'évoquait tout à l'heure, l'amanite tumouche qui est un peu l'emblème du champignon toxique, rouge avec ses petits points blancs dessus, et qui finalement ne l'est pas tant que ça. Francis Martin.
La Manitou mouche, donc c'est ce champignon dont le chapeau est rouge, tacheté de blanc. On le retrouve sur l'île Noire, avec Tintin.
Oui.
On le retrouve dans Alice au Pays des Merveilles.
Oui, oui.
Et on le retrouve dans quasiment tous les livres pour enfants qui, à un moment ou un autre, parlent de champignons. Donc les schtroumpfs s'assoient sur le chapeau de ce champignon. Et en fait, il n'est pas toxique. Alors, je ne vous recommande pas d'aller en chercher demain matin et d'en manger, parce que vous auriez effectivement des hallucinations. Il était utilisé, ce champignon, je crois qu'il l'est toujours utilisé par les chamans, les sorciers des tribus du nord de la Sibérie, parce qu'en fait, quand on pèle la peau et on la fait sécher, on la transforme en poudre, et on consomme cette poudre, elle est très riche en une molécule hallucinogène, très proche du LSD. Et en fait, on peut parler aux dieux grâce à cette molécule-là. Donc elle a été utilisée depuis au moins 4000 ans par l'homme pour mettre en place des rites basés sur en fait la transe et les hallucinations.
Et alors les champignons font des drôles d'effets aux hommes. Parfois, il y en a aussi qui ont des drôles d'effets sur d'autres animaux, comme les insectes. Corentin vous pose cette question. Un petit mot sur les champignons zombies qui prennent possession du système nerveux des insectes.
Alors, il y a effectivement des champignons qui sont des parasites d'insectes, hein, notamment la grande famille des cordyceps. Et donc, ces champignons peuvent momifier des chenilles. Ça se passe dans l'Himalaya, sur des prairies d'altitude. Et donc, il y a des photos très spectaculaires où on voit des chenilles tout emmaillotées avec des fructifications de champignons qui dépassent. La pharmacopée traditionnelle chinoise lui prête à ce type de chenilles momifiées de grandes vertus. Ça se collecte et ça se vend fort cher auprès, donc sur les marchés chinois. Il y a aussi des champignons qui vont pénétrer dans le corps des fourmis, envahir ce corps et fabriquer des molécules qui vont donner des informations au cerveau. Et c'est à ce titre qu'on parle de zombies, parce qu'en fait, ça va détourner le comportement habituel des fourmis et les conduire notamment à se percher sur une feuille en accrochant leur mandibule. Et de ce perchoir, en fait, c'est un endroit de dissémination idéal pour le champignon lorsqu'il va fructifier.
Ils prennent les commandes de la fourmi et la mettre là où ça les arrange qu'elle se trouve. Hein. C'est assez étonnant. Alors, il y a ces molécules déjà qui peuvent faire des dégâts sur les champignons, chez les champignons hallucinogènes. Il y a aussi les champignons vénéneux. Alors là, combien de personnes intoxiquées chaque année en France? C'est un sujet à prendre quand même au sérieux.
Une centaine de personnes.
Une centaine de personnes, des décès aussi à déplorer dus aux champignons.
Généralement, c'est traité assez rapidement maintenant, et donc en fait, je ne suis pas certain qu'il y ait plus d'une dizaine de décès par an. C'est pas une cause principale de mortalité en France. Hein. Ouais.
Ça n'empêche pas de donner peut-être quelques conseils. Vous en donnez d'ailleurs, hein, Francis Martin, dans votre livre. Peut-on reconnaître un champignon dangereux? Quels conseils on donne?
Non, à part même avec un bon guide, je reste toujours très prudent. Il faut vraiment s'adresser aux spécialistes. Il faut aller à l'exposition mycologique de la fac de pharmacie voisine. Il faut aller voir le pharmacien, même si je crains que maintenant beaucoup de pharmaciens ne soient plus formés à la reconnaissance des champignons.
C'est exactement ce que déplore Véronique sur Internet. Ce qui me désole, c'est que les pharmaciens ne connaissent plus les champignons. Lorsque nous sommes allés en ramasser, personne n'a pu nous apporter de réponse sur leur toxicité. À qui demander des conseils sur les champignons aujourd'hui?
Normalement, sur les marchés, je crois qu'il reste toujours un spécialiste. On ne peut pas vendre de champignons sur un marché en France sans qu'il ait été vérifié par un agent de l'administration. Sinon, trouver un ami mycologue ou se concentrer sur les espèces où il n'y a aucun risque. Et on revient à
quelles sont-elles,
ces espèces?
Des
morts, ouais. La girole, le cèpe. Je crois qu'avec la morue, on commence à rentrer dans une zone un peu délicate. Certains champignons, comme le gyromitre, proche de la morue, pourraient être toxiques. Mais voilà, avec la girole, il n'y a aucun risque, on ne peut pas se tromper. La trompette des morts et des cèpes.
Alors, pour ne pas rester sur une note négative avec ces champignons, quand même prenons le temps, dans les deux dernières minutes qui nous restent, d'évoquer ces champignons grands pourvoyeurs de molécules et dans bien des domaines, en médecine notamment.
Ah oui, alors les champignons ne se déplacent pas, donc ils fabriquent des tas de molécules qu'ils relarguent dans leur environnement de manière à pouvoir en tirer des ressources, notamment nutritives. Et donc de ce métabolisme dit secondaire, on a dérivé des tas de choses. Donc des médicaments, oui, des antibiotiques, hein, comme la pénicilline, évidemment, mais aussi, quand ça se passe sur des croûtes fromagères, des arômes. Et puis, il y a évidemment les fameuses levures qui sont capables de réaliser la fermentation alcoolique, sans laquelle on n'aurait ni pain, ni vin, ni bière.
Même le chocolat,
vous dites. Même le, voilà, quasiment tout. Ouais. On pourrait pas... On ne pourrait peux pas vivre sans champignons. Oui. Enfin, je refuse de vivre dans une civilisation sans vin, sans pain et sans fromage.
Oui, je vous suis bien volontiers là-dessus. On pourrait aussi imaginer d'utiliser ces champignons à des fins écologiques, par exemple dépolluer les sols. C'est ce qu'on appelle la mycorhémédiation.
Alors, dans les qualités des champignons, la capacité via de nombreux transporteurs, encore une fois parce qu'ils sont immobiles, de concentrer notamment des métaux lourds, mais aussi de la radioactivité, de dépolluer des hydrocarbures, tout cela est envisageable. Il n'y a pas de recette magique, hein, néanmoins, ça reste des organismes vivants avec des limitations et un tempo qui n'est pas forcément celui actuellement de l'industrie. Mmh.
Une chose que l'on n'a pas dite non plus, ils ont tendance à accumuler justement les polluants, mais ça peut jouer des tours. Justement, quand on ramasse les champignons, il faut éviter d'aller les...
Bah, après l'explosion de Tchernobyl, énormément de champignons étaient contaminés par les radioéléments, et particulièrement les sangliers les mangeaient, les viandes de sangliers étaient contaminées, donc il faut faire attention. Consommer des kilogrammes.
Ouais, et ne pas aller les ramasser à côté d'une route ou à côté de...
Je ne ramasse jamais mes copains sur un parking ou le long d'une route.
Très bien, voilà, c'était le dernier conseil. Merci Fabienne Malagnac et Francis Martin de nous avoir accompagnés. Je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs. Fabienne Malagnac, Les champignons redécouverts aux éditions Belin, et Francis Martin, Tous les champignons portent-ils un chapeau aux éditions Quae.